Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 3 du Gaufrier, le podcast bimensuel consacré à la bande dessinée avec des libraires dans les micros. On a bien entendu vos remarques sur le fait que nos chroniques étaient trop lues, alors on a pris les bonnes décisions en ne changeant absolument rien de la formule et en gardant la même équipe. Salut Marion, salut Mimoun et salut Louise.
Salut Christopher. Salut Christopher.
La formule c'est de parler de deux nouveautés et d'un titre plus ancien. Pour cette fois, il y aura de la nuit parisienne d'aujourd'hui et de la nuit parisienne du début du siècle avec l'une de ses plus grandes figures. Et pour éviter de passer pour de bobos parisiens, on terminera avec un récit post-apocalyptique. Claustrophobique à souhait. Les trois titres de cette fournée sont Les Rigoles, Fréhel et Blame. Jingle.
C'est le go-go-go, c'est le go-go-gaufrier.
C'est le go-go-go, c'est le go-go-gaufrier.
C'est le go-go-gaufrier.
Avant de lancer Louise, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook en tapant le Gaufrier Podcast, sur Instagram le Gaufrier Podcast tout attaché et sur Twitter @gaufrierpodcast. On y fait un peu de teasing sur les prochains épisodes, on met quelques photos de nous et surtout des images des BD dont on va parler maintenant. Place à Louise et à sa folle virée nocturne.
Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On sort? T'es dispo? Ça te dirait pas d'aller boire un coup? De manger? De sortir? De danser? Personne ne répond, personne n'est dispo. Jonah va passer une dernière nuit à Paris avant de rejoindre sa belle à Berlin. Il va alors s'en remettre à la fièvre et au hasard. Entrez dans cette fête folle et poussez cette petite porte derrière laquelle vous entendez déjà les pulsations d'une basse sourde. Rien ne sera plus jamais comme avant. Inspirez, soufflez, c'est parti. Première partie de soirée, boire un coup. Bon, facile, ça on sait faire. Nous suivons toujours notre homme, mais aussi un nouveau, Rodolphe, alias le baron, celui sans qui la ville est morte, celui avec qui la fête va plus loin, celui qui a des amis au nom de Sultan et de Monsieur Plaisir. Seulement voilà, le baron, Rodolphe, tourne à la tisane. Il ne sait plus, doute, se trouve plus drôle, commence même à avoir peur de ses amis, enfin presque de tous ses amis, sauf celle avec qui il vide son sac, là, en ce moment, au milieu de la foule. Pendant ce temps-là, l'apéro bat son plein. La nuit commence tout juste pour Victoria. Victoria, c'est cette fille-là. Mais si, tu vois, celle du bar, celle qui est si bien entourée par ses amis, sa famille. Si on regarde bien, on a même l'impression qu'ils vont l'étouffer avec leur bienveillance. Bon, remarque, ça n'a pas l'air de la déranger, elle les écoute même plus. T'as vu comme elle mate la danseuse de pool dance? Bon, attends, je me suis complètement égarée. T'as pas vu Jonah? Parce que bon, c'est quand même lui qu'on suit à la base. Il est au bar? Je le vois plus. Ah si, je crois qu'il est là-bas avec Buzz. Mais ils font quoi, là? Deuxième partie de soirée. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Alcool, drogue, verre renversé, taxi direction le disco harem. Rodolphe redevient le baron samedi, se perd dans la foule, danse, rencontre Noémie et Christophe. De son côté, Victoria craque. Elle veut sortir, faire la fête, boit cul sec, une vodka, deux vodkas. Le point de rupture est bientôt là, approche. Bim ! La crise va venir. Yona ne maîtrise plus Buzz, qui s'emporte, cherche la bagarre, la provoque, se font virer. Bon bah on va où maintenant ? Taxi ? Troisième partie de soirée. Oui bon, je vais quand même pas tout vous raconter quand même. En plus, bon, troisième partie de soirée, ça se dit pas. À la rigueur, on peut dire qu'il est approximativement 1h du matin à ce moment-là. La nuit bat son plein et nos protagonismes commencent à peine. Bref, vous aurez compris, je vous parle d'un album de quasiment 300 pages qui nous raconte une nuit complètement folle, enfin une nuit. Un samedi soir dans Paris par une douce nuit d'été. Vous suivez trois personnages principaux assez récurrents qui sont Yona, Victoria et Rodolphe, tous dans la fleur de l'âge, qui vont passer une parenthèse mystique dans la ville lumière, la ville de tous les possibles. Comme vous l'aurez peut-être compris, tout s'y passe simultanément, dans un maelstrom qui serait complètement idiot de vouloir aplanir. Les références sont excessivement multiples. Vous avez un très beau dessin qui est à l'aquarelle et au crayon, assez sublime et exigeant. C'est drôle, angoissant, poisseux, effrayant, joyeux, fou, coloré. Ça parle de tout, de rien. C'est un grand tourbillon qui paraît ne jamais devoir s'achever. C'est Paris, et décidément, Paris n'a pas fini d'être une fête.
Ça s'appelle donc Les Rigoles, c'est signé Brecht Evans et c'est publié par Actes Sud, comme tous les albums de Brecht Evans. Moi j'ai découvert Brecht Evans en 2014 avec la sortie de Panthère, qui est un album malsain, qui parle de manière un peu déguisée de viol d'enfant. Voilà, c'était très beau
pas,
aussi.
Pas
mais
tellement déguisé. Hein.
On s'en rend compte qu'après, pas tout de suite. C'était voilà, magnifique mais profondément sale. Et là je vois un Brecht Evans assez virtuose dans le dessin et la narration de ces personnes et de ces personnages. Mimoun, qu'en as-tu pensé?
Alors, Brecht Evans, c'est vrai que c'est un auteur qui attire directement par le dessin. On ne peut que voir sa virtuosité. Moi, je l'avais découvert avec Les Noceurs. Je l'ai lu un peu après sa sortie. Bon, si je dois dire quelque chose sur cet album-ci, c'est qu'il y a un côté Noceurs, parce que ça parlait déjà du monde de la nuit, mais hyper fantasmé, très positif. On parlait de la solitude dans la nuit. Je trouve que celui-ci a quelque chose de plus mature que Les Noceurs, dans le propos notamment. On sent que c'est une œuvre plus aboutie. Autre chose, dans le rythme. Moi, je trouve que, en termes de rythme, là où il était très léger habituellement dans ses précédentes BD, là, on va avoir des moments où on a des pavés de texte. Alors, il y a deux passages. Il y a des moments de scènes de nuit pour faire entendre le bruit parisien. Le bruit parisien, c'est des scènes où tout le monde discute autour d'une table. Bah, vous allez suivre juste la personne que vous voulez regarder. Pas besoin de tout lire. Et il y a autre chose, les scènes magnifiques dans le taxi. Parce qu'on a parlé donc de trois personnages. S'il y a quelque chose qui les lie, c'est pas forcément leur rencontre. Ils se rencontreront pas vraiment. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui les lie, c'est les passages où ils sont dans le taxi et que le chauffeur de taxi leur raconte à tous une histoire. Là, le rythme change, il y a vraiment du texte. Ça prend le temps. J'ai aimé ces passages-là.
Allons.
Moi, je me suis laissée complètement emmener par cette histoire. Il a un dessin fou. Il a un dessin fou parce que c'est pas un dessin qui nous prend par la main. C'est pas un découpage avec des belles gouttières, des bords de cases.
C'est de la peinture directe, on dirait.
C'est de la peinture directe. C'est de l'aquarelle. Il y a du crayon, il y a du feutre, il y a de la couleur qui superpose. Et en même temps, il veut pas nous lâcher parce qu'on va avoir une foule qui va se mettre à parler en même temps. Et plein de couleurs de typos différentes pour savoir ce qui se passe, ouais, où sont les conversations. Ben voilà, c'est très malin. Un dessin toujours renversant, parce que c'est pas évident quand même de nous faire comprendre une boîte, un bar, plein de gens, du bruit, des soirées parallèles qu'on va suivre en même temps et qu'on voit se rassembler assez régulièrement. Et je te rejoins, Mimoun, sur le rythme, parce que moi j'ai revu, enfin j'ai suivi des soirées comme on peut tous en projeter, hein. La soirée qu'on va passer soir, mais on voit ses potes, on a commencé la soirée avec eux, on les a perdus, on se retrouve, un taxi qui passe une musique ou un mec qui parle, une conversation qu'on n'avait pas entendue, on continue, 4h du mat, ça commence à être sale, est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on continue ? Dans cet album, on continue, on va continuer jusqu'au bout, on ne s'arrête pas du tout. Et moi, j'ai bien aimé ce baron samedi, ce mec qui va mettre la soirée. J'ai mis un peu de temps à comprendre que ça allait être lui qui allait donner le rythme. Mine de rien, pour moi,
l'arrivée... Parce qu'il se réveille tout au long de la soirée et que ça dégénère et qu'il est en accord avec la soirée.
Une longue présentation de personnages avec ce baron qui boit sa tisane et on ne comprend vraiment pas ce qu'il fait à boire sa tisane un samedi soir-là.
Et il a son paquet de PQ sous le bras en plus, c'est ça là. Il est totalement déchéant, c'est ça.
Complètement, le mec arrête tout, il veut voir personne. Enfin, mais pourquoi t'es dehors dans ces cas-là ? Et en fait, c'est ce début de soirée, ça c'est le début de soirée. Après, ou tu passes une bonne soirée, ou tu passes une soirée pourrie, mais tu passes une soirée de l'enfer.
Tu peux passer une bonne soirée avec ton paquet de PQ après, mais...
Mais personne ne juge que tu fais ton paquet de PQ, Christopher. Vraiment.
Mais juste ce baron, donc le moment où la soirée va s'envoler, le rythme s'envole, c'est un moment où, malgré lui, il va consommer de la drogue.
Ouais.
Sauf qu'en réalité, il ne veut pas consommer de la drogue. C'est l'état dans lequel il est au début que lui veut. Donc c'est malgré lui. Et c'est là aussi qu'il y a quelque chose de mature. En fait, les trois personnages, ils sont à la fin d'une époque. Ils veulent passer à autre chose. Donc ce milieu de la nuit, ils essayent de clore un peu ça.
C'est ça. Il y a Yona qui déménage.
C'est ça.
Lui, donc, il essaye de se calmer. Ouais. Et il y a la jeune fille qui sort de dépression.
C'est un peu ça. Et j'ai trouvé ça... c'est là aussi où il y a un propos peut-être plus mature. On sent que putain son passé. Ah, un autre lien graphique. Il y a un des lieux dans la BD qu'on voyait aussi dans Les Noceurs. Ce parquet, enfin bleu, ce carrelage bleu qu'on voit au sol.
Ah,
on le voit aussi dans Les Noceurs. Puis autre chose, on parlait du dessin. Il va y avoir une exposition à la Galerie Martel. Tous ceux qui auront l'occasion de voir des originaux de Brecht Evans.
Il faut absolument y aller. Ouais.
C'est ça, parce que c'est des peintures. Ouais. C'est des formats très différents et la couleur est vraiment différente. Tu vas craquer ton PEL pour t'en acheter une, Louise ?
J'aimerais beaucoup. Alors, à savoir que moi, j'avais lu une interview de Brecht Evans et il disait à peu près qu'il y a 10 ans, il dessinait des bonhommes avec des bâtons pour faire les jambes.
Ah oui.
Oui.
D'accord.
Si vous avez... venu,
on est loin. Hein. On va vous mettre ça donc sur les réseaux sociaux, mais c'est mieux.
Et je vous invite quand même, si vous n'avez pas l'occasion de passer à la Galerie Martel à Paris, c'est d'aller jeter un coup d'œil sur YouTube parce qu'il y a pas mal de vidéos dans lesquelles Brecht Evans a peint devant les caméras. Oh. On le voit dessiner. On le voit prendre une feuille. Il y a rien. Il y a pas de préparatoire. Le mec arrive. Il est en train de parler. Il est en interview. Il est en train de monter une case. Il est en train de monter une planche. C'est dingo. C'est complètement dingo. Donc n'hésitez pas à aller voir ça parce que du dessin direct. Comme ça, aussi construit, aussi fouillé, avec des techniques aussi différentes et en même temps cohérent tout le temps, c'est canon.
On n'a rien de mauvais à dire sur cet album.
Si je devais dire un truc mauvais...
Non, t'as pas le droit.
Mais bien sûr que si, je vais le dire.
Enfin, Mimoun se révèle aux yeux du monde.
Mais ça commence comme un bouquin. Moi, je vais le dire, comment je l'ai lu. Comme un bouquin un peu chiant au départ.
Non.
Puis ensuite, j'ai kiffé. Puis à la fin, c'est redevenu un truc chiant. Mais en fait, c'est voulu. Et c'est ça que j'ai aimé. Non, mais c'est le rythme qu'il a envie. Et c'est ça que j'ai aimé aussi au final. C'est que c'est son propos est là aussi.
Moi, je trouve que le rythme, justement, c'est ça dégénère petit à petit. Il faut que ça démarre calmement.
Mmh.
Il faut qu'on soit en début de soirée, il faut qu'on soit en after work et tout avec des potes. Et puis, il y a un côté très Requiem for a Dream, rencontre Very Bad Trip. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est beau. Ça va vriller vraiment énormément pour Yona ou Jonah. Je ne sais pas du tout comment on va l'appeler.
C'est pas très bien l'appeler.
Mais waouh, ce pote-là, il est tellement mal, il est tellement. Ouh, il fait peur. Et puis, même graphiquement, quoi, c'est un blob, il est immense et il inquiète.
C'est un blob violet.
Il inquiète énormément. Ah, il faut vraiment que vous voyez les vidéos, les photos qu'on va mettre, parce que là, sinon, vous ne vous rendez pas compte. Mais ouais, grosse claque graphique. Moi, je suis d'accord. La dernière fois, on a parlé de moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Les rigoles, c'est mon autre gros coup de cœur graphique. Là, parce qu'on est, sur quelque chose de hors la bande dessinée. Quoi. Ça va. C'est un artiste énorme, Brecht Evans, là-dessus.
En tout cas, vous aimez les beaux dessins et la BD, ouvrez un Brecht Evans, regardez ce qu'il y fait. Quoi.
Vous aimez les soirées défoncées, ouvrez celui-là, il est pour vous.
Mm-hmm. Bon, vraiment, je suis un peu déçu, j'espère qu'on va critiquer la prochaine.
Des critiques.
On abandonne le Paris moderne pour se replonger maintenant avec Marion dans celui de la belle époque, celui des cabarets et des bistrots. Ça sent bon longtemps.
Il est trop tôt, mais je vous le dis, le matin pour moi, il est toujours trop tôt. Je suis sur le quai de la 7, j'attends le métro qui sera bondé comme la plupart du temps. La rame arrive, je monte, je me faxe, m'accroche à la barre et je ferme les yeux. Il n'y a plus qu'à attendre que ça passe. On a tous dans la tête une carte postale de Paris, en noir et blanc ou en sépia, un air de musique qu'on fredonne sans s'en rendre compte et sans savoir pourquoi il revient. Moi c'est Fréhel, c'est Paris avant la guerre, avant les guerres. C'est des rues qui n'existent plus, des bars dans lesquels on boit plus de suze et un accent qu'on n'entend plus nulle part. C'est la Java bleue. Mon métro vient de s'arrêter pour une raison inconnue entre deux stations. Tout le monde, trop serré les uns sur les autres, soupire. C'est confirmé, on va être en retard. Quelqu'un appuie sur mon sac et me rappelle, par le même coup de coude, que je porte un album qui vient de sortir chez Nada, écrit et dessiné par Joanne Gelouis, Fréhel. Ça y est, je sais pourquoi ce refrain revient maintenant. Décidément, je suis bien mal réveillée pour ne pas avoir fait le lien tout de suite. J'en savoure les pages depuis hier soir, lentement, pour ne pas que ça s'arrête. J'ai découvert Marguerite, petite fille des trottoirs de Paris qui deviendra un cap, une péninsule de la chanson française. Raconté à la première personne, porté par un dessin vif avec des aquarelles qui nous font danser, cet album nous fait traverser la vie de Fréhel, de son enfance à la gloire jusqu'à la déchéance avant sa mort. Si la construction est somme toute assez classique, des chapitres chronologiques qui traversent les grandes périodes de sa vie, je découvre avec joie et beaucoup de tendresse que cette chanteuse qui parlait, je pensais, d'un Paris belle époque de carte postale, fut en réalité d'un rock'n'roll à toute épreuve. Fréhel a cramé sa vie par les deux bouts, sans retenue, sans reprendre son souffle, et si la vie l'a fracassée, elle a l'air d'avoir gardé la démesure qui l'animait jusqu'au bout. Son Paris a disparu parce que, ne nous trompons pas, son Paris a bien disparu. Après tout, je vous parle d'un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître, d'un temps où Maurice Chevalier n'était ni mort ni vieux mais très jeune, vivait avec sa mère et commençait tout juste sa carrière. J'ai découvert que l'énergie qui l'animait est toujours bien dans la capitale. On ne croise plus de Marlou, pas plus qu'on se retrouve pour des fêtes de tous les diables auprès des fortifs. Par contre, Paris vit toujours la nuit. Elle est toujours traversée par des sons et des musiques qui racontent de manière réaliste et frontale le quotidien des gens dans la galère. L'armée est repartie, je suis en retard, mais finalement pas tant que ça. À présent, je suis bien réveillée, je suis arrivée, je descends en fredonnant et vais attaquer ma journée.
Tu kiffes, Mimoun?
Merci, Cora.
NTM, ma gueule.
Avec Booba.
Tu l'as dit, c'est l'œuvre de Joanne Gelouis, dont ce n'est que la seconde bande dessinée. C'est édité par Nada Édition. Et je vous prie d'excuser mon ignorance, mais je n'avais jamais entendu parler de Fréhel avant d'ouvrir cette bande dessinée. La chanson réaliste, c'est Moyen Monde Adore. C'est pas mon gros kiff. Même s'il semblerait qu'Emmanuel Macron ait cité Fréhel au discours d'enterrement de Charles Aznavour. Oh, alors, ouais. YOLO Manu. Donc j'ai découvert un personnage pas dans la norme, indépendante, forte, entière. Et Louise, as-tu aimé cette biographie? Parce qu'en fait, c'est toute l'histoire de Fréhel. Ouais.
Comme toi, je connaissais pas du tout le personnage, honte à moi. J'avais une petite appréhension au début, parce que j'avoue que les biographies en bande dessinée, c'est un truc qui commence un peu à me saouler. Enfin, il y en a eu beaucoup, il y en a des très bien, mais j'ai toujours l'impression que quand on est scénariste ou dessinateur, c'est tomber dans la facilité de commencer à raconter la vie de quelqu'un. Après, elle fonctionne, je trouve qu'elle fonctionne excessivement bien. Elle serait à ranger du côté des bios qu'ont pu faire Catel et Boquet.
Catel et Boquet, chez Casterman, ouais, voilà. Sur Kiki de Montparnasse, sur Olympe de Gouges, c'est des très très beaux albums qu'on conseille très 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 souvent. C'est des très cool biographies.
Ouais. Sur Joséphine Baker.
Joséphine voilà. Baker,
on
aussi.
L'oublie pas.
Et du coup, ça c'est cool parce que j'ai appris plein de choses et que j'en suis ressortie plus grande malgré l'appréhension vraiment que j'avais au début, qui en plus c'est que les bio en BD, ça a une petite tendance à un peu m'embêter quoi.
J'ai exactement le même avis. Ouais. Les défauts et les atouts d'une biographie, c'est que c'est factuel et épisodique. On a des périodes, les scènes s'enchaînent et ça ressemble.
Ça donne un tourbillon de plein de choses, mais finalement on s'attache pas à tout le monde. Elle est border et des fois on l'aime et des fois on l'aime un peu moins, mais elle reste entière. Et puis les atouts, parce que ça permet de tout savoir sur elle, quoi. C'est qu'on a beaucoup d'épisodes, on a son voyage à l'étranger, le moment où elle fuit, on a toutes ces grandes histoires qui l'ont formée et tous les hommes qu'elle a eu dans sa vie aussi, les femmes aussi qu'elle a eu dans sa vie d'ailleurs, sa mère et sa meilleure amie, c'est pas n'importe qui dans l'histoire. Mais voilà, j'ai eu ce côté biographie un petit peu tout le long de l'album. Malgré tout ça, c'est ultra beau. Graphiquement, c'est plein de petites vignettes. Chaque case n'est pas avec un bord rectangulaire. C'est que ça s'évapore un petit peu petit à petit. Et le dessin de Johan, il est très, 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 très beau. J'ai adoré les couleurs, j'ai adoré les décors, les costumes, toute la recherche qu'il doit y avoir derrière pour représenter oui, Paris de cette époque-là. Ouais. C'est un gros, gros, gros boulot. Et en ça, il a fait un travail de dingue. C'est un gros album. Il doit faire 200 pages, un peu plus de 200 pages, je pense.
Ouais, je crois, ouais.
Donc, ouais. Gros taf du gars. Imoun.
Bon, j'ai peut-être un peu moins aimé que vous, notamment pour les défauts d'une biographie en BD en réalité. Bon, j'invite tout le monde à ouvrir la BD.
Pour plus tard, ne plus faire de biographie dans le gaufrier.
Alors, moi, mon premier a priori, il est à la couverture. Je trouve pas que la couverture soit très catchy, le petit profil. Je vous invite vraiment à l'ouvrir parce que, comme disait Christopher, il y a un vrai boulot graphique. J'aime beaucoup les couleurs. Ça marche très bien. Par contre, oui, moi, cette histoire-là, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. J'ai lu Kiki de Montparnasse, je connais bien l'histoire. Alors, je connaissais un peu Fréal, je connais aussi l'histoire de Édith Piaf, et surtout, il y a cette narration épisodique, un peu catalogue, on passe d'un moment à un autre, d'un moment à un autre. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Oui, la coco.
La coco.
La coco, en effet, l'un des événements, et l'un des points communs d'ailleurs avec Édith Piaf. Donc voilà, c'est un bon album, je dis pas que c'est un mauvais album, mais c'est vrai que j'ai pas eu le grand kiff, le plaisir de le lire, quoi.
C'est un album important pour Fréal.
Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est une biographie, elle est classique. Ça, c'est vraiment son côté, moi, qui m'a un petit peu déçu, c'est ce côté hyper chronologique. Par contre, deux, trois trucs quand même. On va parler de l'histoire d'une femme indépendante, cocaïnomane, alcoolique, toujours borderline. Et c'est pas un vain mot dans son cas que dire borderline, qui a laissé un panthéon de musique absolument taré, dont on se souvient très très peu, si ce n'est que sur les vieilles compiles de chansons françaises chez nos grands-parents. Et là où il est très fort, c'est de faire un album qui soit grand public.
Oui.
Parce qu'il va faire vivre un Paris que les plus de 100 ans vont connaître. Parce que son Paris, il bouge. Ses dessins, ça bouge.
Les plus de 100 ans lisent des bandes dessinées avec
leurs
yeux de
plus de 100 ans. Moi, je suis
persuadée
que le monde entier lit de la BD.
D'accord. Okay.
Voilà. Des os, pas des os. Et en même temps, voilà, c'est peut-être à la différence, tu vois, de personnages comme on parlait un peu plus tôt. Kiki de Montparnasse, on la connaît déjà. Olympe de Gouges, c'est un monument qu'on découvre là-dedans ou pas, mais qui est relativement consensuel. Josephine Baker maintenant aussi. Fréhel, c'est pas le cas. Fréhel, elle est tombée dans l'oubli. Elle a fini très seule, très pauvre, et finalement dans le Paris dans lequel elle a grandi aussi. Donc il y a aussi une espèce de boucle qu'on va voir à travers son parcours. Là où moi je suis moins d'accord avec toi, Christopher, que ce que tu disais, c'est qu'on va pas baliser toute sa vie. L'auteur a fait des choix. On est très concentré sur sa jeunesse. On est concentré sur qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qui va faire qu'elle va être ce personnage-là. Mais son personnage en soi de Rosta, parce que ça a été une Rosta de folie, finalement on passe assez vite dessus. Il va y avoir ces moments d'échéance où on va comprendre comment ce personnage va s'effondrer, mais on aurait pu passer tellement plus de temps que ça dans les cabarets parisiens, et finalement on le fait pas parce qu'on les connaît déjà. Parce qu'on connaît Piaf, parce qu'on l'a vu, parce qu'on... Voilà, tout ça on connaît déjà.
C'est vrai qu'on n'a pas trop les scènes, les enregistrements, le contact avec le milieu, on la voit beaucoup... En fait, après ses spectacles.
On la voit pas sur scène. On la voit pas avec son public, on la voit pas avec ses admirateurs. On la voit, elle sort de scène.
Mais parce que son public, c'est les gens de la vraie vie. Et c'est aussi ça, à mon avis, que Joanne Gélouis voulait montrer dans la BD. Ça, c'était bien.
Et là, voilà, moi, c'est là où ça marche. C'est que c'est Fréhel et c'est Fréhel qui porte un Paris qui n'existe plus. Ou qu'on voudrait qu'on nous a un petit peu aussi, qui a été un petit peu mystifié. C'est ce que je vous racontais, c'est de la carte postale, le Paris Belle Époque. C'est beau, c'est propre. Ou alors, si c'est pas propre, c'est pas grave, c'est chez les saltimbanques. En vrai, Paris, ça pue, quoi.
Ouais.
Paris, c'est daubé. Paris, quand tu rentres pas dans les cases, tu finis tout seul, quoi. En attendant, dans son cas...
À l'époque ou aujourd'hui.
À l'époque ou aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé que ça marchait. Parce que c'est aussi la chanson réaliste, c'est pas notre cam. Allez, il n'y a plus d'accordéon, mais évidemment qu'on écoute de la chanson réaliste. Et des destins de femmes comme ça qui disent « Écoutez, prenez bien vos vies, moi, je vais faire la mienne. » Moi, ça m'a parlé. Dans cet album comme ça, avec un dessin qui est relativement doux, tout le temps, ça peut être mis dans les mains de n'importe qui. Autant vous dire que cet album était fait pour moi.
Ok. Je voulais vraiment du fight. Hein. Bon, j'espère que ça va arriver sur...
Mais en même temps, c'est parce qu'autour de la table, vous le verrez plus tard, il y a des traîtres. Un jour, vous entendrez les vrais sons.
Les coulisses.
Je ne nommerai personne.
Moi, je suis désolé, mais j'ai donné mon avis à chaque
fois. Nous sommes au troisième épisode.
Et je dis ce que j'aime et ce que j'aime pas, là.
Et les coulisses sont déjà...
Il est possible qu'un jour, vous voyez qui est le traître parmi nous.
On a déjà des bails. Je n'ai pas vraiment de transition pour vous parler de Blame, parce que ça n'a rien à voir.
Parce que c'est normal, on ne peut pas faire de transition avec Blame.
Donc, je vous invite à m'accompagner dans le manga le plus désespéré que je connaisse. Démarche, encore démarche. C'est pas que je fatigue, mais c'est répétitif à force. Ça fait des jours que cet escalier n'en finit pas. Il arrive à me faire regretter les interminables corridors d'il y a plusieurs mois. Et au moins, il me laissait un endroit pour dormir contre un mur. Pas foutu de s'y allonger correctement entre ces putains de marches. Et ce sang qui ne veut pas s'arrêter de couler, elle m'a pas raté cette sauvegarde. Je l'ai à peine vu sortir de l'ombre. Putain de robot avec sa tronche de mort-vivant. C'était une rapide. Et le temps que je dégaine, elle était déjà sur moi, à m'extirper les tripes. Mon corps met du temps à se réparer. Plus que d'habitude, peut-être. Je commence à vieillir. Ça doit faire quoi ? 7 ou 8 ans que je monte maintenant. Et presque 2 que je n'ai croisé personne. Pas un foutu humain. En même temps, c'est sans doute mieux. Personne ne devrait vivre ici. Ces couloirs de tuyaux, ces enchevêtrements chaotiques de construction n'ont pas de sens. Tous croisent et se perdent dans des dédales de passage. Et je suis bien le seul demeuré à m'y enfoncer, à m'y perdre et y perdre la raison. Je ne désespère pas de croiser quelqu'un. À force de monter, je vais bien atteindre le sommet. Trouver ce ciel dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais vu. Et rencontrer ceux qui ont créé cet endroit. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il n'y a rien. Et peut-être que je suis seul, seul dans cet enfer de métal. Ah, du bruit, en bas. Ça doit être des amis de la sauvegarde d'hier. J'espère qu'elles ne seront pas trop nombreuses. Lire Blame, c'est une sensation unique. Ça fait partie des œuvres cultes qui resteront seules et isolées. La noirceur des dessins est malsaine. Les claustrophobes vont faire des cauchemars de ces couloirs étriqués que Killy, le héros, traverse sans cesse. Et le peu de dialogue auquel on a droit renforce l'oppression et le malaise. Cette quête vers le haut est inhumaine et pose plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Pour moi, c'est une œuvre ultra culte. Et je voulais bien savoir ce que vous en pensiez. Je donne la parole à Marion.
Nope.
Oh.
Et puis là, par contre, là, du nope...
Du nope total.
Ah, du nope total. Je connaissais pas cet auteur, je connaissais pas Blame, je connaissais pas l'univers. J'y suis allée, finalement, somme toute, d'assez bonne volonté. Et j'ai été confrontée à plusieurs problèmes, qui est un dessin qui est quand même... alors, je sais pas si c'est parce qu'il est vieux comme le monde, mais de mon point de vue et d'un jugement probablement trop hâtif, me direz-vous, eh ben, c'est bien vilain, quand même.
Quoi ?
Ah là là, ah là 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 là. Je vous cache pas que j'ai pas du tout passé un bon moment de lecture. Ce jour devait arriver sur le gaufrier, c'est arrivé aujourd'hui.
J'ai fait lire les 5 premiers tomes à tout le monde.
J'ai lu les 5 premiers tomes parce que je suis disciplinée en me disant ah peut-être que le premier ils étaient pas chauds. J'ai pas compris le premier, donc j'étais contente de lire le deuxième parce que j'ai fini par comprendre ce que j'avais lu dans le premier. J'ai avancé vaillamment, et je me suis rendu compte au bout du 5e tome. Enfin, je l'avais compris avant, mais j'ai admis que j'en avais absolument rien à secouer.
Okay.
Et ça m'arrive pas souvent de me dire « Oh, dis donc, cet univers ne m'intéresse pas. Dis donc, je vais... » Boum, pas du tout. Donc je suis navrée. C'est une découverte. c'est une découverte que je ça ne m'arrive pas souvent. Mais je crois que je ne suis pas très ravie d'avoir découvert.
Super, merci. Allez, Mimoun, du soutien.
Œuvre culte, j'en avais entendu parler depuis longtemps. J'en avais lu 2 tomes à une époque. Bon, j'étais pas rentré dedans, puis j'attendais la réédition qui arrive bientôt.
Ah oui,
pour mi-novembre, je crois.
Exactement.
Et je me suis dit, ben voilà, tu le proposes, c'est l'occasion. Premier tome, une horreur, une torture. Et à chaque tome,
je me disais,
mon Dieu, arrête. Et non, je continuais.
Mais...
Et je continuais en me disant, en ayant confiance en toi, mec, en me disant qu'il allait se passer un truc au tome 5, qu'il se passait quelque chose qui allait faire que ma lecture allait être bonne. Et ben non, pas du tout. Le dessin, moi je suis pas aussi horrible sur le dessin. J'aime bien en fait les architectures, mais pas les personnages. Les personnages se ressemblent tous, les scènes d'action, on y comprend que dalle.
Merci.
Démarche. Attends, mais moi quand je lis un manga, ce que je veux, c'est des scènes d'action compréhensibles.
Ah, mais les mecs, ils sont là bas du front, ils veulent,
on y voit rien.
Ils veulent du combat. Et non, là, on leur donne autre chose, ils sont pas contents.
Non, et tu disais démarche, des combats où je ne comprends rien, où tous les personnages se ressemblent.
Non.
Si. Moi aussi, comme Mimoun, j'ai eu un énorme... Alors, j'aurais adoré aimer ce truc. Parce que vraiment, on m'a toujours dit, oui, c'est incroyable, Blame, ce genre de choses. Et j'ai lu que le premier.
Et pourtant, on s'est battu pour pouvoir les lire, ces trucs-là. Ouais. Et elle a lu que le premier.
C'est pas facile à avoir.
J'avais commandé les autres, les quatre autres. Bref. Et comme Mimoun, moi, c'est impossible niveau dessin. Je ne comprenais pas l'enchaînement des cases. Et en fait, au bout de la moitié du truc, je me dis non, attends, c'est pas possible, tu sais plus lire un manga. Il y a vraiment,
tu es vieille, Louise. Ouais,
ça n'a, j'avais l'impression qu'à des moments, mais ça n'a aucun sens. Il y a un pont qui se baisse, mais avant, il y avait d'autres trucs dessus. Et du coup, moi, ça m'a énormément gênée dans la lecture, qui fait que j'ai refermé, j'ai fait d'accord, il meurt, ok, mais on va s'arrêter. Non, pas possible. J'ai l'impression d'avoir mis en plus 45 minutes non, à lire le truc.
C'est très, très dur. Il a une narration, c'était son tout premier manga. Enfin, il a fait des petites histoires courtes et ça comptait pas trop. Il a une narration qui est pas classique parce qu'elle est pas dynamique comme du manga. Et ça, je suis obligé de l'assumer à chaque fois que je le conseille. Je dis, vous allez rien comprendre des fois parce qu'il va tirer avec son immense flingue. Et normalement, là, vous devriez voir où va le tir. En fait, vous êtes en face du tir et donc vous avez le rayon qui arrive vers vous et vous le comprenez pas tout de suite. Et c'est un style, il y a que lui qui l'a. Et mais il y a que lui qui le comprend. Et moi, ça s'est débloqué au troisième tome et j'avais fait. Ok, j'ai tout compris et maintenant je sais. Et je pouvais le lire plus vite et c'était encore plus intéressant. Mais c'est vrai qu'il est absolument pas facile d'accès. Je vous invite, ou pas du coup, parce que vous n'avez pas aimé, à lire, Abara.
Les 10 autres tomes.
À lire Abara du même auteur qui est chez Glénat, où là, l'enchaînement est encore plus imbitable.
Mais, mon problème, ça n'a même pas été l'enchaînement, je te coupe.
Mais tu peux pas dire que c'est moche, c'est ultra beau quoi. Le mec est un ancien architecte. Il adore
si
faire
c'est
des bâtiments. Il adore.
J'aime bien le côté crade.
Le
ça,
côté
j'aime bien.
SF, un cyberpunk totalement défoncé.
Ouais.
Il y a quelque chose même parfois d'organique dans les immeubles. Ça, je trouve ça beau. Ouais. Mais en fait, j'aurais aimé avoir un mec qui déambule sans fin, sans quête, voire un voyage. Mais ces scènes d'action constamment qui coupaient ma lecture.
Ouais, moi, je veux voir un personnage qui n'a pas une tête de Playmobil, les gars, quoi.
Mais c'est un semi-robot, c'est pour ça.
Non, mais il y a un moment, c'est un semi-robot chaton. Moi, je veux bien, mais je vais quand même le regarder marcher longtemps, interagir avec des murs. Il y a un moment.
5 tomes.
Tu vois.
Oh, ça va, madame, j'en ai lu qu'un.
Tu vois, il y a un moment, à la limite, le découpage des combats, moi, dans le premier, je l'avais. Tu vois, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. C'est pas le problème. C'est juste que s'il y a un moment. Rien qu'au trait, j'ai compris qu'on avait un enjeu d'humanité, qu'il n'y en a pas, puisqu'il discute avec son père, qu'il a à peu près zéro réflexion intérieure et aucune expression.
L'enjeu quand tu lis 5 tomes, c'est quand
pardon,
tu vois un nouveau personnage féminin, tu te demandes est-ce que c'est la meuf du tome 1 que tu as au début.
Et t'es pas sûr.
T'as des trucs comme ça
où
tu reviens en arrière et tu te dis. Et du coup, tu te demandes est-ce que le début du tome 1 c'est quelque chose qui n'a pas lieu après tout ce que tu es en train de lire.
Ouais, enfin,
pardon pour tous ces bruits auditeurs, pardon, mais ça a été une souffrance de
ça. C'est dur, très très
c'était
dur.
C'était superbe, vous êtes vraiment très méchant. Je tiens juste à vous dire que si vous allez jusqu'à la fin des 11 tomes, vous en comprenez pas plus, mais c'est le voyage qui est beau, comme on dit. Il a beaucoup marché, rien que pour ça, c'est la plus grosse rando du manga qu'on ait jamais vu.
Vrai,
quoi.
En vrai,
genre les mecs du sommet des dieux
de
Taniguchi, ils marchent moins.
Il y a un caillou dans ta chaussure, tu l'enlèves avant les 11 tomes, quoi. Il y a un truc.
Non, mais il meurt plein de fois en plus, on lui coupe des trucs.
Ce qui plaît aux gens. C'est ce truc totalement énigmatique où forcément tu mets ton interprétation sur plein de choses et du coup il y a du débat entre les gens. Ça doit plaire, je comprends l'idée. Moi j'aime bien l'univers graphique, mais en fait je me suis mis un peu dans la peau d'un Américain ou d'un Japonais qui recevait du métal hurlant, tu sais.
Ah, c'est un peu ça.
Et tu reçois du métal hurlant, tu comprends pas, tu trouves ça cool.
Magazine de science-fiction.
Sauf que là c'était traduit,
français, voilà.
Du coup je comprenais aussi. Et là ça marchait un peu moins. Bon, si je l'avais juste regardé en japonais, j'aurais trouvé ça cool, je pense.
Ah oui.
Ça n'a aucun sens.
Alors, vous pouvez trouver une adaptation d'un mini arc, d'un mini passage de Blame sur Netflix en film d'animation. C'est le moment où il y a des humains, enfin où il y a des gens presque humains et donc ils parlent à des gens, donc ils disent des mots.
T'es en train de me dire qu'il y a un moment, des gens ils ont écrit des lignes de dialogue sur cet univers.
Ouais, carrément. Ouais.
Et où c'est texturisé. Ouais. Avec du coup, il y a des trucs où il y a différentes matières dans le même.
Sur la vie de ma mère, c'est vrai.
Wow.
Quand il marche. Mais c'est. C'est Love Fart de Tsutomu Nihei et donc ce sera réédité en même temps que sa nouvelle série qui sort chez Glénat. Toutes ces séries de toute façon sont chez Glénat. La nouvelle s'appelle Apocymes. C'est beaucoup plus lumineux et blanc dans le dessin. Il a beaucoup évolué. Sur la narration, c'est beaucoup plus clair. Peut-être que vous pouvez essayer ça maintenant, espèce de fan de grand public. Je pensais jamais dire ça un jour à vous trois quoi. C'est moi normalement le plus mainstream et là vous aimez pas ça. Donc ce sera réédité en grand format pour Blame. Et information de plus, Nihei sera invité du festival d'Angoulême. Il y aura une expo, il y aura une masterclass, il y aura des dédicaces. Si ça se trouve, il y aura des planches après parce que l'expo, elle viendra peut-être sur Paris, on pourra la voir. Promis, on ira tous ensemble.
Allez, ok, on y va. Franchement, elle vient à Paris. On y va ensemble, on déplace mono micro. En vrai, on vous en parle. Oh. Je veux bien être de bonne volonté. Oh là là. J'ai lu les 5. Après, est-ce que mais Louise meuf, va arriver jusqu'à devant la porte ouais, on ne sait pas, mais on vient.
Oui, elle okay. va s'arrêter à un cinquième
truc. On essaye. Franchement,
je vais m'arrêter à deux stations.
Je suis de bonne volonté. Elle va monter dans le métro, elle va arriver, elle dit finalement
c'est
non,
c'est pour
rentre.
Que tu arrives devant et que tu dises c'est moche, je suis pas d'accord.
Non, elle avait... enfin, j'ai lu les 5 alors que vraiment très vite, j'ai su que ça allait être compliqué entre Blaine et moi. Mais ok, ça vient à Paris, on va voir l'expo ensemble et on vous en parle.
J'avais prédit qu'on serait méchant avec les titres dont les auteurs ne pourraient pas répondre. Vous donnez raison à cette hypothèse quand même là. Nihei, il va pas venir nous voir en disant vous avez été méchant.
Peut-être.
S'il vient à l'hôtel de ville, enfin si on fait l'expo et tout ça machin, peut-être qu'il viendra nous taper.
Peut-être qu'il viendra nous taper, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais fais-nous confiance. C'est le troisième. On va se trouver.
Okay,
on va se trouver. Et on a toujours un traître parmi nous qui finira bien par se dévoiler. Là, donc
il y a
un moment,
qu'il
ça
était
se sent.
Dans mon camp, Mimoun. C'est trop dommage. On en termine avec cette troisième salve de gaufres. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. On vous aime très fort. Merci à mes trois chroniqueurs et amis d'avoir participé. N'oubliez pas qu'on démarre juste. Alors, parlez de nous justement à vos amis, à vos contacts Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez ce qu'on fait, faites en sorte qu'on arrive jusqu'à leurs oreilles. À la prochaine tout le monde.
Bye bye.
Bye.
C'est le Gaufrier, le podcast sur la BD.
Mais c'est les donjons de Malbec
celui dans vos oreilles qui vous présente des BD merveilleuses avec des libraires fabuleux.
Ah oui, non mais ça va hyper loin quoi.
Oui, j'en fais deux. Mimoun, Marion et Louise. Faut que ça rime avec fabuleux. Louise, qui parfois vous lise.
Voilà, vous
leur chronique écrite la veille. Mais qui vous émerveille toutes les deux semaines.
Très bien, c'est pas mal, c'est long mais c'est pas mal.